6h45 sur France Culture.
Les enjeux internationaux, Thierry Garcin.
Bonjour Thierry Garcin.
Et rebonjour Émilie Chaudet.
Il est question aujourd'hui dans les enjeux internationaux de la conférence de paix au Proche-Orient donc qui se tiendra ce dimanche.
Conflit israélo-palestinien avec notre invité Pierre Razou. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour, vous êtes directeur de recherche à l'IRSEM, l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire. Alors évidemment, la première chose à dire, c'est que ce conflit est resté dans une impasse pendant des décennies, une impasse à la fois remarquable au sens latin du terme et renouvelée. Il est clair que le gouvernement israélien actuel qui poursuit sa politique systématique de colonisation ne veut pas d'État palestinien, lequel finira pourtant par un jour être créé. Alors ce blocage est d'autant plus tragique que des espoirs avaient été nourris, notamment dans le passé deux reprises, les accords d'Oslo en 93, on prévoyait un statut définitif pour la Palestine donc en 99 au plus tard, et puis la feuille de route de 2003 qui avait été signée par l'ONU, par les États-Unis, par la Russie, par l'Union européenne en tant que telle, et qui annonçait la création d'un État palestinien au plus tard en 2005. Donc, il faut remarquer d'ailleurs au passage que la CEE, avec la déclaration de Venise de 80, et puis l'Union européenne par la suite, ont toujours et fermement soutenu la création de l'État palestinien. Alors d'abord, le contexte et pourquoi elle commande cette conférence, il en a eu une précédente en juin dernier, je crois.
Oui, alors je pense que, comme la dernière fois, il ne faut se faire aucune illusion, la conférence de paix n'a aucune chance d'aboutir. Mais alors, pourquoi donc la conférence ? Je crois que, évidemment, comme les Israéliens et les Palestiniens ont refusé de venir, toute chance de négociation aboutie ne peut être imaginée. Par contre, je pense qu'il faut comprendre cette conférence qui n'est beaucoup plus une conférence finalement géopolitique qu'une conférence de paix, suivant deux approches. Donc la première, c'est une logique pédagogique, la deuxième, une logique géopolitique. Pédagogique pourquoi ? Parce que finalement, à quelques jours de la prestation de serment de Donald Trump, qui pourrait être tenté d'abandonner, on va dire, le dossier israélo-palestinien.
Le vendredi prochain, d'ailleurs.
Vendredi prochain. Quelques semaines après le vote de la 2344, de la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies 2334, donc qui pour la première fois en 40 ans condamnait officiellement la politique de colonisation israélienne.
Grâce au non-veto des États-Unis.
Grâce au non-veto des États-Unis, la communauté internationale cherche, et voilà la pédagogie, cherche à montrer à l'ensemble des parties prenantes qu'elle reste mobilisée sur ce sujet, qu'elle entend bien progresser sur ce dossier et surtout qu'elle reste attachée à la solution à deux États. Voilà, à l'heure actuelle, on entend...
Il n'y en a jamais eu d'autres, d'ailleurs.
Alors, il y a eu d'autres options. À un moment donné, on a parlé de l'État unique, c'est-à-dire une sorte de fédération israélo-palestinienne. Les Israéliens ont longtemps poussé l'option de trois États, c'est-à-dire une sorte de... le Hamas contingenté dans la bande de Gaza, Israël, et puis le Fatah et l'OLP contingenté ou réduit dans la Cisjordanie. Donc il y a cette volonté-là de réaffirmer haut et fort sur le devant de la communauté internationale, donc la volonté de maintenir cette solution à deux États. Et la logique géopolitique, c'est que nous nous trouvons à un moment très particulier. Donc encore une fois, Donald Trump s'apprête à arriver au pouvoir et donc à assumer la totalité du pouvoir aux États-Unis, mais surtout face finalement au blocage des non-négociations, puisqu'il n'y a plus de négociations entre Israéliens et Palestiniens pour le moment. Certains acteurs extérieurs, notamment la Russie de Poutine, se proposent de jouer les médiateurs et donc d'arriver dans le jeu et de
montrer finalement. D'ailleurs, la Russie de Poutine qui n'a pas de mauvais rapport avec Israël.
Poutine a d'excellents rapports avec Netanyahou et en général la Russie est plutôt très bien vue en ce moment en Israël. Et en même temps, pour des raisons historiques, la Russie reste vue comme un ami historique des Palestiniens. Donc, comme tout le monde voit que Poutine finalement s'intéresse au dossier, il était temps sans doute pour un certain nombre de grandes puissances, et notamment les Américains qui ne devaient pas venir et qui au dernier moment se sont invités pour dire non, finalement on vient, donc John Kerry sera là ce week-end, pour montrer à tout le monde que les Russes n'auront pas la priorité et que donc toute négociation et toute discussion sur le futur du dossier palestinien doit s'entendre à tout le monde.
Comment est-ce qu'a été vécue ou appréhendée ou perçue l'élection de Donald Trump en Israël, compte tenu que Donald Trump a d'ailleurs agité un chiffon rouge juridique qui est une logique d'apprenti sorcier, c'est de mettre l'ambassade des États-Unis à Jérusalem.
Oui, alors je dirais que de ce qu'on peut entendre ou voir, les effets sont mitigés. Tous les experts israéliens ne sont pas tout à fait d'accord. Alors bien sûr, Donald Trump, comme vous le dites, a dit que s'il était élu, il n'hésiterait pas à mettre l'ambassade américaine à Jérusalem, donc de la bouger de Tel Aviv, où sont toutes les autres ambassades, puisque Tel Aviv est, on va dire, la capitale juridique d'Israël, à Jérusalem.
Le problème étant qu'il y a Jérusalem Ouest, personne n'y voit mal, mais que l'État d'Israël a annexé Jérusalem en 80 et que d'autre part, la municipalité de Jérusalem empiète elle-même sur la Cisjordanie. Donc on est dans un casse-tête qui a été créé fondamentalement et volontairement par les Israéliens.
Tout à fait. Les aficionados de Trump en Israël voient aussi que Trump a dit qu'il ne se mêlerait pas des négociations israélo-palestiniennes, qu'il laisserait les Israéliens négocier directement avec les Palestiniens, et qu'en plus, il ne voyait pas d'un œil défavorable, c'est la politique de colonisation, sur le bon principe que lui-même étant agent immobilier, bien évidemment, tout ce qui concourt à construire des bâtiments un peu partout lui fait plutôt plaisir. Mais vous avez d'autres experts en Israël qui disent, regardez, Donald Trump est entouré d'antisémites, d'antisionistes. Il cite Steve Bannon, qui est un tenant de l'extrême droite, raciste, etc. Il cite également les nombreuses déclarations où Trump a dit « Je ne serai jamais l'otage de l'AIPAC et des différents lobbies juifs. »
Qui est la grande organisation américaine.
Voilà. Et donc, de plus en plus d'Israéliens commencent à se dire que même si Trump, et on a l'impression que c'est un petit peu sa marque de fabrique, même si Trump est capable de caresser dans le sens du poil Benjamin Netanyahou et la communauté juive en leur disant « Mais regardez, moi je vais être un grand ami d'Israël, je vais éventuellement bouger l'ambassade, etc. » En fait, en réalité, il va faire probablement tout ça, ou il va essayer de le faire, mais il est probable qu'il ne, non pas qu'il ne s'intéresse pas ensuite à Israël, mais qu'il laisse les Israéliens face à leurs responsabilités. C'est-à-dire que si, par exemple, le message subliminal, c'est si le gouvernement israélien actuel se retrouve confronté à, par exemple, une nouvelle intifada, à des révoltes dans la région, etc., parce que, entre guillemets, il l'a cherché, ou du moins parce que sa politique colonisatrice, par exemple, l'a provoqué, eh bien, le gouvernement israélien assumera tout seul.
Alors, il y a une difficulté, évidemment, on terminera là-dessus, Pierre Azou, c'est évidemment les Palestiniens eux-mêmes qui connaissent une diarchie, même institutionnelle, on va dire, entre l'administration palestinienne en Cisjordanie et le Hamas à Gaza, ce qui ne simplifie rien.
Oui, bien sûr, donc les Palestiniens sont toujours divisés géographiquement et politiquement. On peut noter quand même ces dernières semaines une tentative donc de resserrer les liens. Mais là encore une fois, donc tout le monde est à l'approche de ce qui va se passer à la Maison Blanche. Et là encore, de nombreux Israéliens font valoir que Trump finalement s'est intéressé au cas israélien finalement uniquement depuis que sa fille s'est convertie au judaïsme, puisqu'elle a épousé un grand mania de l'immobilier new-yorkais, donc Jared Kushner, dont Trump a fait son conseiller particulier. Et que Trump, de l'avis de nombreux Israéliens, serait finalement beaucoup plus proche de la communauté juive new-yorkaise, on va dire, qui a réussi dans les affaires, que de l'État israélien lui-même.
Oui, alors, bon, ce n'est pas le sujet, mais si Mme Clinton avait été élue, alors c'était une tranquillité à toute épreuve dans le dossier conflit israélo-palestinien.
Oui, tout à fait, comme d'ailleurs en général au Moyen-Orient.
Merci beaucoup Pierre Azou. Je rappelle que vous êtes directeur de recherche donc à l'Institut de recherche stratégique de l'École militaire. Et puis donc notre très regretté ami, évidemment, Jean-Christophe Victor, le dessous des cartes. Donc on lui a rendu hommage, évidemment. Et demain, ce sera le dessous des cartes consacré au Mozambique, future puissance énergétique, point d'interrogation, sur Arte à 19h30.
Et lundi, Thierry, il sera question des télécommunications.
Oui. Oui, enfin, oui, vous avez raison d'ailleurs, parce que c'est un sujet très original. C'est le rôle
des. Ce n'est pas moi qui en décide.
Le rôle des. Pardon.
Ce n'est pas moi qui décide des sujets, des enjeux internationaux.
Vous êtes bienvenu pour avoir un avis personnel.
Ah, mais bien sûr.
Et donc, c'est un sujet très original. C'est sur le rôle des câbles sous-marins dans la. Non seulement dans les communications, mais dans les rapports interétatiques. Enfin, les câbles des sous-marins. Notre invité sera Marielle. Pardon, excusez-moi. Notre invité sera
Camille Morel.
Camille Morel, qui est doctorante.